Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS. Le RKS Foot Time Show.
Il est lundi, on est lundi 19h, c'est l'heure que vous attendez tous, le RKS Foot Time Show. Encore une heure passée ensemble pour parler effectivement de football professionnel. On va débattre, on va s'écharper, on va rigoler. Ça va être encore un bon moment à passer avec vous. Je suis avec mes deux acolytes, Pierre, notre supporter parisien, origine de Nantes. Ça va Pierre?
Ça va et toi Kevin?
Eh ben ça va super, et on est également en direct du sud de la France avec, avec Melvin. Salut Melvin, ça va?
Salut à tous, et vous, comment ça va les gars?
Eh ben écoute, ça va pas trop mal. Le lundi, c'est toujours un moment que j'attends avec impatience, moi, pour me retrouver avec vous. Alors oui, c'est vrai qu'on n'est jamais d'accord, mais quand même, ça reste quand même un bon moment, parce que parler football avec des personnes qui n'y connaissent rien, c'est quand même fantastique.
Ouais, ouais. Eh Melvin, tu remarqueras qu'aujourd'hui, pour une fois, il fait pas la gueule, Kevin, c'est bien.
Ouais, c'est ça qui est bien. C'est un garçon lunatique, on en a besoin pour les
études. Ouais, c'est ça, exactement.
Ouais, bah écoutez, pour une fois que j'ai une bonne présentation, voilà, il y a personne qui dit ah il y a Pierre, il est beau, il est fort, hein, machin, et puis après il y a Kevin, il est pas content, il fait la gueule, il a pas raison, au moins comme ça, voilà, ça lance bien l'émission. Donc voilà. Melvin, tu sais que c'est toi qui t'occupes effectivement de toute la présentation, de la médiation, de tout ça. Donc dis-nous qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui, Melvin.
Écoute, un menu qui va vous régaler aujourd'hui, puisqu'on va d'abord parler du Real de Madrid et du sacre cette année. À qui la grâce? À Zizou, à Sergio Ramos, on en parlera dans le premier sujet. On enchaînera ensuite avec Marcelo Bielsa et Leeds qui remonte en première ligue. Ça, c'est quand même une belle info. On parlera de Marcelo Bielsa, on parlera de Leeds également. On parlera également de Monaco qui, en l'espace de 2 minutes, a réussi à licencier Moreno et à embaucher Kovac. Assez impressionnant. On parlera justement de Monaco de ces dernières années. Et quand même, la grosse info du championnat de France, c'est l'arrivée de Jean-Louis Gasset du côté de Bordeaux. De nouvelles ambitions, de nouveaux challenges pour Bordeaux. On va s'interroger là-dessus. Et bien sûr, on finira par notre quiz institutionnel. Messieurs, le Real de Madrid a été champion la semaine dernière, ce week-end. Ouais. À qui la grâce? À Zizou, aux joueurs. À un championnat qui est pour moi en déclin, avec de moins en moins de niveau. Pourquoi le Real de Madrid, pour vous, est champion cette année?
Vas-y, Pierre.
Bon, en tout cas, ça reste un très beau sacre, comme on avait vu au travers du quiz la dernière fois. Bon, le Real Madrid, meilleure défense, hein, 0,70 buts par match, meilleure défense du Big Five. Et comme je l'avais déjà dit dans une émission précédente, pour gagner un titre, il faut un grand capitaine, un grand gardien et un grand buteur. Et surtout aussi un grand chef d'orchestre, et en la personne de Zidane cette année. Donc à ce titre-là, il n'y a pas aujourd'hui d'adversaire face au Real Madrid dans cette Liga qui, oui, je suis d'accord avec toi, est un petit peu sur le déclin aujourd'hui. Après, on ne va pas leur enlever leur mérite. Aller gagner une Liga, il faut le faire. Il y a quand même des prétendants derrière. Et le sacre est mérité. Après, pour répondre à ta question, pour moi, s'il devait y en avoir un qui ressort du lot, cette année, c'est Benzema. Benzema qui a pris une autre dimension, qui est à l'apogée de sa carrière, qui a fait une année stratosphérique, qui pour moi, cette année, est le meilleur numéro 9 qu'on peut avoir, tout championnat confondu. Donc, c'est plus que mérité cette année. Belle équipe et qui paradoxalement, on a souvent en plus cette idée un peu toute faite de dire que on est sur une équipe qui est vieillissante, qui a peut-être le dernier sacre de cette génération. Moi, je me suis amusé à reprendre un petit peu les âges du dernier match là qu'ils ont pu faire. Et ben en fait, quand tu regardes la moyenne d'âge, elle est de 26 ans avec seulement en fait Benzema 33 ans, Ramos qui en a 34, et pour le reste, tu as beaucoup de joueurs de 22 ans. De joueurs de 22, de joueurs de 25 ans comme Mendy, t'as Vinicius qui a 20 ans, Valverde qui en a 22. Donc pour moi, le Real va surtout devoir s'atteler à préparer le remplacement de ces trois monstres, enfin de ces deux monstres surtout qui sont Ramos et Benzema. Et je pense que la clé va être là-dessus.
T'as Ouais, ouais. Luka Modric, c'est
ouais,
évident,
mais hein. Ils ont commencé à s'éclipser au cours de cette année, tu sais. J'ai regardé pas mal de matchs, ils ont commencé à laisser leur place. Alors Modric, il était sur le départ l'année dernière, il était inexistant au départ, et puis il est revenu petit à petit dans l'effectif, il a retrouvé son niveau. Mais je pense que le Real de Madrid, sur ces postes-là, est déjà prêt. Je ne suis pas plus inquiet que ça. La grosse inquiétude pour moi, le gros questionnement, c'est comment tu remplaces aujourd'hui un Ramos. Comment tu remplaces un Benzema? On l'a vu, ils ont essayé de faire venir du monde, hein, Jovic. Ils ont fait revenir Mariano. Mais les gars, c'est des plantes, quoi. Franchement, c'est des plantes.
Non, mais Mariano, par rapport à Benzema. C'est pour la réserve.
Mais c'est exactement ça. Et moi, la grosse inquiétude, c'est Benzema. Enfin, sincèrement, moi, j'aime beaucoup Benzema. Mais je ne m'attendais pas à qu'il se hisse à ce niveau-là, qu'il puisse remplacer un Cristiano Ronaldo dans son apport. Parce que c'est vrai, il s'était mué plusieurs fois en passeur. Hein. Il faisait jouer Ronaldo très souvent. Et là, l'année qu'il fait est stratosphérique, sauf qu'à 33 ans, il faut commencer à se poser la question. Et le Real a essayé d'amorcer son remplacement. Je pense qu'au fond, ils ont en tête de prendre un jour Mbappé, à terme, on le sait tous. Sauf que Mbappé, on l'a bien vu en numéro 9 ces derniers mois, ces dernières années, bah, c'est pas ça. Donc la grande question, c'est qui sera capable de remplacer Benzema et qui va être sélectionné pour pouvoir faire en sorte que le Real garde cette dynamique de ces dernières années avec tous ses sacres en Ligue des Champions.
Tu peux respirer, Pierre, c'est bon.
Non, je peux rester.
Voilà, c'est bon, ça pue la jalousie dès le départ.
Kevin, j'aimerais que tu me donnes ton avis parce qu'il y a... Ah, ça y est.
Non, mais Kevin, n'interroge pas sur la Liga, en fait. Il connaît rien par la Serie A.
T'es con.
Mais justement, c'est pour ça que je voulais poser cette question à Kevin. T'as quand même une personne qui a marqué la Juventus de Turin, un club que tu affectes, qui est Zinedine Zidane, ouais. Tant par sa classe de joueur et par sa classe d'entraîneur, on peut dire, parce qu'il a fait ses preuves, même s'il ne l'a fait que sur un club. Est-ce que tu penses justement que Zizou, il est un grand artisan de ce titre de champion, une nouvelle fois?
On est obligé de le penser, parce que Zidane a amené le Real quand même à... Deux fois, les deux fois où il est venu, il a amené le Real, on a l'impression vraiment au plus haut où ce club pouvait aller. Faut pas oublier qu'il prend les rênes du Real la première fois après un épisode Benitez très très compliqué. Et au final, il amène le club au sommet avec la réussite qu'on connaît. Il s'en va, puis finalement, il revient après l'épisode Lopetegui qui était aussi un... très très compliqué derrière et finalement il arrive encore une fois, parce qu'il faut bien se douter que c'était pas gagné hein, pour le Real de gagner le titre cette année, parce que le Barça avait quand même quelques points d'avance, le Real avait débuté on va dire timidement sa saison, il y avait eu un gros chantier je trouve, aussi bien la première fois que la deuxième fois pour Zidane. Il fallait effectivement remotiver tout le monde et retrouver un système aussi de jeu qui convienne à tout le monde, et là je suis admiratif et à la fois ça m'énerve, parce que tout ce que fait ce mec, ça marche quoi. Tout ce que fait ce mec se transforme en or. On a l'impression qu'il a une étoile au-dessus de sa tête. Ça a été aussi bien le cas pendant sa carrière de joueur, parce qu'il a fait une carrière absolument fantastique. Mais enfin, moi je trouve que c'est impressionnant. J'ai pas d'autres mots. Après oui, on peut parler de Benzema, de Ramos, de plein de joueurs cette année qui ont fait la différence. Moi je suis assez assez ama... enfin il y a presque tout à dire et en même temps rien, parce que quand une équipe comme ça est forte avec des joueurs très forts, surtout qu'en plus ils avaient perdu Cristiano Ronaldo, qui ont pensé qu'ils auraient du mal à s'en remettre, finalement ils ont mis du temps, mais avec Zidane on a l'impression que tout est possible, qu'il y a rien qui est interdit. Moi j'ai envie de voir Zidane dans un autre club pour voir s'il arrive à avoir cette même aura, mais on est forcé même de constater que... Non mais si.
Oui, ouais. Mais Kevin, moi j'en étais sûr qu'il y en ait un de vous deux qui allait pondre ce truc. Zidane, il a 3 Ligues des Champions, tout le monde donne la réussite de Zidane sur Ronaldo. Voilà, mais
non,
bon, Zidane,
mais c'est pas ce que je veux dire.
Ronaldo.
Non,
Zidane,
c'est pas,
c'est Ronaldo.
C'est
maintenant
pas,
que
non,
Zidane
n'est pas
a gagné sans Ronaldo,
dire.
Et ben Zidane doit maintenant gagner sans le Real de Madrid.
Non,
il est magnifique.
On n'a pas dit que Zidane n'était pas capable de gagner sans Ronaldo. Zidane,
je l'ai entendu plus d'une fois. Alors pas
chez moi.
Toi, mais 99% disaient oui, mais bon, Zidane, il a eu la réussite qu'il a eu parce qu'il a eu le meilleur joueur du monde dans son effectif.
Non, Zidane.
Dans ces cas-là, le Barça gagne tout aussi.
Non, la preuve.
Ouais, je suis pas d'accord. Ouais, la preuve. Je pense que le Real a une très belle équipe, a un très bel effectif. C'est un club quand même, on peut le dire, qui est très stable, un des plus stables d'Europe, même du monde. C'est pas pour rien qu'il en est là. Un président qui sait faire des frasques, mais qui sait aussi entourer son équipe et la protéger. Maintenant, oui, la question qu'on peut se poser, et Pierre, je te rejoins là-dessus, c'est est-ce que Zidane est capable de réussir ailleurs ? Je me pose la question.
Non, moi, je dis pas qu'il n'est pas capable de réussir. Je dis que j'ai envie de voir. J'aimais pas de jugement négatif.
J'aimais une réserve.
Non, même pas. C'est même pas une réserve. J'ai envie de voir justement. J'ai hâte de voir Zidane évoluer dans un autre club pour voir justement s'il a cette même aura. Parce qu'on sait que au Real Madrid, il a ses petits souliers en argent, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, il est dans un fauteuil, il a les pleins pouvoirs, il n'est jamais remis en question. Et non, c'est normal, parce qu'il a les résultats, il était joueur avant et un joueur très reconnu, très apprécié, aussi bien par le public que par la direction. Donc, voilà. Mais est-ce que, dans un autre club, avec un autre contexte, est-ce qu'il va réussir autant ? On est forcé de constater que, enfin, ou de le penser que oui, parce que tout ce qu'il fait, de façon, il réussit. Mais justement, j'ai hâte. Et il disait un petit peu là dernièrement, il disait quand même qu'il était un peu fatigué après cette saison qui était compliquée, etc. Il disait qu'il appréciera, avant de reprendre notamment la Ligue des Champions, de faire une petite pause, vacances, etc. Voilà, moi, je vois Zidane aussi un peu comme un compétiteur. Et je me dis, je pense qu'il aura aussi envie de partir ailleurs. Je pense qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire après les trois titres du Real, parce que le Real est vite revenu le chercher. Mais je pense quand même qu'il aura envie d'aller voir ailleurs. Et je voulais quand même, vous avez très peu parlé, vous avez beaucoup parlé de Benzema et de Ramos. Moi, il y a un joueur qui m'a toujours impressionné dans ce club. C'est pas un joueur qui fait beaucoup de bruit, mais c'est un joueur que je trouve très fort et auquel on pense pas souvent. C'est Toni Kroos, qui a un volume de jeu exceptionnel. Et d'ailleurs, vous savez, on pense souvent que le palmarès ne trompe pas. Est-ce que vous avez déjà regardé le palmarès de ce garçon ?
Il est champion du monde.
Ouais. Il est champion d'Allemagne avec le Bayern Munich. Il est vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern de Munich, de la Super Coupe de l'UEFA avec le Bayern Munich, de la Coupe du Monde des Clubs avec le Bayern Munich. Il a gagné la Coupe d'Allemagne, la Super Coupe d'Allemagne. Il a été aussi une fois finaliste de la Ligue des Champions en 2012. Avec le Real, champion d'Espagne 2 fois, Ligue des Champions 3 fois, Coupe du Monde des Clubs 4 fois, Super Coupe de l'UEFA 3 fois, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne 2 fois. Il est vainqueur de la Coupe du Monde en 2014. Il est vainqueur du Championnat d'Europe Espoir en 2009. Il est troisième de la Coupe du Monde en 2010. Demi-finaliste de l'Euro. C'est impressionnant, quoi. Enfin, je veux dire,
on est d'accord.
C'est impressionnant. C'est un joueur qui fait pas beaucoup de bruit, mais sur le terrain, il est crucial.
Et chirurgical.
Il est crucial pour le jeu du Real et c'est impressionnant.
Et justement, pour clore le sujet, messieurs. Il y a quelque chose, moi, que je me pose comme question, c'est que Zizou peut partir dans des très grands clubs, parce que vous savez qu'il n'est que le 6e salaire européen.
Alors, moi, si je peux me permettre, j'ai mon avis sur la question. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Zidane, moi, je le vois continuer à remboîter sur une nouvelle saison. Et je pense que Zidane va être très attentif, parce qu'il fait attention à ses sorties, hein, qu'elles soient... il fait attention à la manière dont il amène les choses, il le fait avec intelligence, il soigne son départ, il soigne ses retours. Moi, Zidane, je le vois faire encore une année, se donner le temps d'essayer de faire une recrue encore ou deux là au Real pour refaire une belle saison. Et après, moi, je le vois de plus en plus guetter l'équipe de France. On sait que c'était revenu après la Coupe du Monde sur le devant de la scène. Il y avait Didier Deschamps qui en avait parlé d'ailleurs ouvertement. C'était assez rigolo en disant que naturellement, il viendrait un jour à être l'entraîneur. Ouais.
L'équipe de France, c'est un salaire divisé par 10. Hein.
Oui, mais aujourd'hui, Zidane, je le sens pas là-dedans. Tu vois. Moi, je le sens pas en quête.
Je le sens pas attiré par l'argent et au point que certains autres entraîneurs le sont, comme Mourinho ou d'autres. Moi, je pense qu'il en a très envie et il sait dans un coin de sa tête, mais je pense pas qu'il faut qu'il se presse avec l'équipe de France. C'est encore un entraîneur qui est quand même jeune. Moi, j'aimerais le voir en club plutôt qu'en sélection. Et je pense aussi que c'est quelqu'un qui a besoin du terrain au quotidien, Zidane. Et c'est pour ça que je pense que la sélection, il aura envie plus tard, quand il aura envie de prendre justement un peu plus de temps pour lui, parce que sélectionneur, c'est épisodiquement dans une saison. Et je pense qu'il a besoin du contact au quotidien. Il a besoin du vestiaire. Il a besoin des entraînements tous les jours. C'est quelqu'un qui a jamais vraiment quitté le football. Hein. Donc moi je le vois plutôt comme ça.
Mais tu le sens qu'il a la fibre French touch. Quand tu le vois, il a Benzema, il veut Paul Pogba, il veut Mbappé, il a Varane, il a Erola. Donc tu sens que c'est déjà quelqu'un qui est imprégné de ça et que c'est un patriote derrière tout ça. Mmh. On peut pas le nier. Hein.
On est d'accord.
Totalement.
Bon messieurs. On va clore ce sujet du Real de Madrid, ce beau champion, et passer sur un deuxième entraîneur assez intéressant, assez atypique, c'est Marcelo Bielsa, ouais, qui fait remonter Leeds en Première Ligue. Bon, pour moi, je voulais pas cacher. Hein, pour moi, c'est le Giroud qui est assis sur une glacière à l'ancienne. Hein.
Donc pour toi, on passe du coq à l'âne.
Ah non, mais là, on passe du coq à l'âne. C'est même pas du coq à l'âne. C'est du coq au furet, bah, ce que tu veux, mais c'est, non. Moi, j'ai envie d'avoir votre avis, parce que pour moi, Marcelo Bielsa, c'est un bourru, c'est un personnage, voilà, mais pas plus que ça, intéressant pour le football d'aujourd'hui. Quoi.
C'est un loco, comme c'est... il est surnommé, le fou, ouais. Allez, Kevin, vas-y, je t'écoute.
Moi, Bielsa, c'est quelqu'un que... Alors, je vais rejoindre Melvin sur un point, c'est que c'est quelqu'un... Enfin, moi, personnellement, c'est pas, entre guillemets, quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est pas quelqu'un que, quand il parle, on a envie forcément de l'écouter pendant des heures. Il a un caractère qui est bien à lui, c'est un personnage qui est bien, bien particulier. Mais il comprend le football d'une manière que peu d'entraîneurs le comprennent. Pour moi, c'est plus un prof qu'un entraîneur. C'est vraiment quelqu'un qui comprend beaucoup de choses sur le terrain, technique, tactiquement. J'ai regardé deux ou trois images de lui dans le vestiaire. C'est très poussé ce qu'il fait. Il fait beaucoup de vidéos aussi parce qu'il attache justement l'importance aux moindres détails. Il est très exigeant aux entraînements. Après, c'est un entraîneur. C'est souvent ces entraîneurs-là, c'est un petit peu à double tranchant parce que tu peux avoir des joueurs... qui vont le suivre aveuglément pendant toute une saison ou dans plusieurs saisons, et ça va marcher. Et aussi bien s'il y a un noyau de joueurs qui est dubitatif, qui n'a pas envie, la méthode Bielsa, elle s'effondre complètement. On a vu à Lille que dès que ça commence un petit peu à se tendre, même à Marseille, dès que ça commence un petit peu à... que les joueurs relâchaient, ça ne fonctionnait plus. Puis c'est un joueur aussi qui exige beaucoup de choses. Moi j'ai regardé, je suis tombé sur une interview hier d'un joueur français qui est avec Bielsa en ce moment, qui est le gardien remplaçant de Leeds. Il s'appelle Meslier. Il est prêté par Lorient avec option d'achat, donc il annonce qu'il va rester notamment en Leeds. Donc il lui dit que Bielsa lui a beaucoup permis de progresser. Il dit: on travaille beaucoup le jeu au pied, les sorties de balles, c'est très très réfléchi. C'est pas facile pour les gardiens, mais c'est vraiment bien. On améliore notre jeu au pied. Il dit que c'est quelqu'un de très professionnel. Il redit encore une fois qu'il y a beaucoup de vidéos. Il dit qu'il s'entraîne par jour. Il y a beaucoup de temps sans pause d'entraînement. Il y a beaucoup de vidéos, soit sur l'adversaire qu'ils sont en train d'étudier, soit sur leur précédent match pour analyser un petit peu ce qui n'allait pas. Donc Bielsa, c'est quelqu'un qui a besoin que son vestiaire le suive aveuglément pour que ça marche. Et c'est pour ça que ça ne marchera pas ou plus dans des vestiaires avec des fortes personnalités ou dans des équipes avec des grands joueurs, avec des grands caractères, parce que c'est un entraîneur qui n'est pas compatible. Mais pour moi, Bielsa, je le vois un peu comme un professeur. Moi, si j'étais entraîneur de haut niveau, j'aimerais passer une petite semaine avec Bielsa en stage pour voir un petit peu comment tactiquement il réfléchit et après l'adapter, moi, à ma méthode, à mon discours, etc. Mais c'est sûr que c'est un entraîneur qui... moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait.
Mais par rapport, moi j'aimerais avoir. Il n'a pas quand même un grand palmarès. Faut pas.
Non, c'est vrai.
Moi j'ai l'impression des fois qu'il est justement, il est surcoté, Bielsa. Alors c'est sûr, il fait monter Leeds en Première Ligue. Mais Leeds, ça fait quand même 3-4 ans qu'ils finissent dans les 4 premiers. C'était un club qui était destiné à monter en Première Ligue dans les prochaines années. Pour moi, c'est pas un faiseur de miracles non plus. Hein.
J'ai pas dit ça?
Non, non, je suis d'accord. Alors, ça va me faire vraiment mal de le dire, mais putain, je suis d'accord avec Kevin sur plusieurs choses qu'il a dit. Déjà, je suis d'accord sur un point, c'est quand il dit qu'il est plus professeur qu'entraîneur. Pour moi, je fais vraiment une distinction entre les deux. Professeur, on peut le voir un peu à la Casa des Papels, quoi. Vraiment, le mec, le psychopathe qui a son idée, que c'est hyper précis. Rien n'est laissé au hasard.
Lui, il me régale.
Ouais,
le
mais
professeur
tu...
de la Casa des Papels, regarde des heures et des heures.
On sait qu'au
cap... J'ai envie d'éteindre la télé.
On sait que t'es en vacances, là.
Non, par contre, c'est vrai que c'est, non, c'est conférences de presse, c'est une purge. Hein, parce qu'il parle en plus.
Mais oui.
La equipo está muy...
Oh,
ça va,
oh, c'est... Oh là, on va... Hey, appelle Jérôme, on va créer une émission d'imitateurs parce que là,
ouais, c'est ça.
Là, il y a quelque chose.
Non, mais c'est vrai, c'est plus un professeur qu'un entraîneur. Pour moi, il manque de pédagogie. Comme disait Kevin, c'est pas un mec qui demain peut récupérer un Ronaldo, un Neymar, un Mbappé. Tout ce qu'il va faire, c'est que le mec qui va se retrouver sur le banc et puis il va se barrer derrière, il va faire un abandon de poste, quoi. Parce qu'il a pas cette pédagogie. Mais Bielsa, je suis d'accord avec toi, il est surcoté aujourd'hui. Bielsa, tu tapes Wikipédia. Je vous invite nos auditeurs à le faire. Tapez Wikipédia, vous regardez palmarès Bielsa. Ah oui, alors il a joué dans plein, enfin il a entraîné plein d'équipes, mais derrière son palmarès, il y a rien, quoi. Il y a rien au niveau européen. Il y a rien. Il y a rien du tout. Il fait des bouts de clubs par-ci, je crois il avait fait l'Atlético, l'OL, il reste au LOS, ouais, pardon, il reste à quelques matchs et puis après il s'en va avec un bilan catastrophique. L'OM, il n'est pas resté très longtemps. On se rappelle de la manière dont il part, qui est assez extraordinaire à quelques journées du début du championnat. Mais néanmoins, on se souvient quand même de son passage. Un OM assez impressionnant, qui plante 4, 5, 6 buts. Qui en prend 2 ou 3, mais qui a cette culture, comme tu disais, du jeu physique, d'aller vers l'avant, d'aller au combat. Ce qui est sûr, c'est que c'est... Oui. Bielsa, c'est un mec, il va aller chercher 110% de son potentiel d'effectif, quitte à aller à la rupture. Ça se sent, ouais. Il a ça en lui. Il est prêt à péter un groupe, mais il ne supporte pas d'avoir des gens qui ne se donnent pas à 110%. Et le problème, c'est que lui, il n'a qu'une seule méthode, c'est la méthode forte. Il faut que ça passe, il faut que ça passe, quitte à péter mon effectif, il faut que ça passe. Et si ça ne rentre pas, je prends ma glacière et je me casse.
c'est pas faux.
Olé.
Non mais ouais, c'est vrai que il a pas un gros palmarès, mais je pense que ça l'intéresse pas même de prendre des grands clubs. Je pense très sincèrement que ça ne l'intéresse pas. Pour moi c'est pas vraiment un argument le palmarès, parce que ce qui est important, c'est ce qu'il fait sur le terrain, et ce qu'il fait sur le terrain, il y a très peu d'entraîneurs qui le font. Quant à Marseille, il débarque avec son 3-3-1 là, avec 3 défenseurs, 3 milieux, 3 milieux offensifs et un attaquant. C'est démentiel. Qui joue comme ça aujourd'hui? Il n'y a que lui. Et en plus, son système fonctionne. Mais c'est un système effectivement qui demande énormément. Et je pense que c'est pour ça qu'à Marseille, à terme, ça n'a pas fonctionné. C'est parce que je pense que les joueurs étaient claqués à la fin de la saison. Et que du coup, ils lui en ont un peu voulu, entre guillemets, d'avoir autant tiré sur la corde et d'avoir justement empêché le club de viser plus haut. Et puis après, du coup, ça s'est complètement...
Oh là là, qu'est-ce que je l'aime, Kevin, quand il recommence à dire n'importe quoi, ça me fait du bien.
Non.
Oh, alors qu'on soit d'accord, il parle de corde, je vais rebondir là-dessus sur sa métaphore. C'est un mec pour moi qui est monocorne et ça explique entre guillemets sa difficulté à aller chercher un palmarès. Pour moi, pour pouvoir avoir un palmarès, il faut être bon à tous les niveaux. Prenons Zidane, on vient d'en parler, même si on passe du coq à l'âne, prenons Zidane. Zidane, il est bon parce qu'il a une lecture du jeu, mais il a cette pédagogie, cette capacité à manager, à accompagner, à sublimer et à mettre les joueurs en confiance. Et pour moi, si tu veux un palmarès, il faut que tu sois bon sur tous les points. Mmh. Et je rejoins Kevin sur ce qu'il disait au départ, parce qu'il s'est un peu contredit sur la fin, mais on lui en veut pas. C'est lundi, et puis il a eu un week-end un peu éprouvant. Mais c'est que aujourd'hui, non mais il faut l'admettre.
C'est que,
mais il n'était pas chez moi. Après,
forme,
je peux pas témoigner.
Forme,
non, mais ce
forme.
Qu'il faut dire, c'est que Bielsa, pour moi, c'est pas un entraîneur complet. C'est un professeur. C'est certainement un vrai passionné, un génie de la stratégie footballistique. Mais pour le reste, il lui manque trop d'humains pour un jour pouvoir prétendre à réellement pouvoir remplir l'armoire à trophées.
Qu'il prenne sa glacière et qu'il aille enseigner à l'université le football.
Je comprends pas pourquoi Pierre s'excite. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors, je sais pas, il a besoin de me cogner de temps en temps pour montrer qu'il existe. Mais c'est tout va bien, Pierrot. Ça va.
RKS, c'est la radio de l'amour, Kevin. Ne l'oublie pas.
Il n'y a qu'une chose sur laquelle on peut le féliciter. C'est quelqu'un, par contre, qui ne va pas pour l'argent.
Oui, c'est vrai.
Il faut savoir qu'à Lille, il a un salaire de 2,5 millions d'euros, ce qui est moins qu'il gagnait à Lille. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, non.
Donc mais... c'est un homme de challenge.
Après, pour moi,
qu'on
oui,
aime je... ou qu'on n'aime pas, c'est un personnage.
Mais je partirais pas en vacances avec lui.
Je suis d'accord, c'est sûr. Non, je suis d'accord avec toi. Par contre, Melvin, quand tu disais que c'était pas un exploit d'avoir fait monter Leeds, c'est vrai. C'est pas un exploit d'avoir fait monter Leeds.
Non.
Il a fait d'autres exploits dans sa carrière, mais celui-là n'en est pas un. Après, je sais pas pourquoi, mais les supporters, quand il va dans un club, les supporters l'adorent.
Ah oui, c'est impressionnant, c'est l'engouement qu'il y a là-bas.
On dirait un gourou, quoi. Il a ses adeptes.
C'est ça, c'est
ils
ça,
en
c'est
parlent comme un dieu. Ils en parlent comme un dieu. Ouais. Et il dit, je minimise mes mots, je fais attention. C'est un dieu, Bielsa, à Leeds maintenant. C'est assez incroyable,
ouais,
quoi,
c'est
ce
vrai.
Qu'il suscite.
C'est vrai, c'est vrai.
Bon, messieurs, on va faire notre première pause, car Kevin a besoin d'assistance respiratoire. Là, notre...
Ouais, je vais aller chercher une bouteille d'eau, tu vois, je suis bon prince.
Voilà, on va appeler le SAMU, hein, le temps de la pause. Et puis surtout, restez sur RKS. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux importants, hein, sur Facebook, sur Insta, RKS Food Time Show. N'hésitez pas à réagir, qu'on puisse vous faire intervenir dans l'émission. À tout de suite, messieurs.
Allez, à bientôt, ciao.
Le RKS Food Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.
Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine. On s'est connu affamé, la rage au vent. Et si sombre était l'avenir, et je t'ai vu lutter sans rémission aucune, pour le meilleur et pour le pire. Nos destins étaient liés, comme dans une tragédie, avec une fin à la Shakespeare. Le dernier acte a sonné, simplement j'aimerais te dire, il y a trop peu de temps à vivre ici, pour jouer cette tragédie. Partir, je n'aurai pas de peine s'il n'y a plus d'espoir aujourd'hui. Pourquoi jouer cette comédie? Si tu dois partir, alors fais-le sans haine. Qui nous sépare, a vu trop de naufrages, trop de tempêtes et de déboires. Ainsi finit notre histoire, car notre amour en fait brûlait ses dernières heures de gloire. Maintenant s'envole avec toi, c'est temps de mon passé, de mon âme et de ma mémoire. Sans pleurer au désespoir, simplement j'aimerais te dire, il y a trop peu de temps à vivre ici, pour jouer cette tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine s'il n'y a plus d'espoir aujourd'hui. Pourquoi jouer cette comédie? Si tu dois partir, alors fais-le sans haine. Affamé, la rage au ventre, et si sombre était l'avenir. Et je t'ai vu lutter sans rémission aucune, pour le meilleur et pour le pire. Nos destins étaient liés, comme dans une tragédie, avec une fin à la Shakespeare. Le dernier acte a sonné, simplement j'aimerais te dire, il y a trop peu de temps à vivre ici, pour jouer cette tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine s'il n'y a plus d'espoir aujourd'hui. Pourquoi jouer cette comédie? Si tu dois partir, alors fais-le sans haine.
Le RKS Food Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.
Allez, de retour sur RKS dans le RKS Food Time Show. On vient juste de parler de Marcelo Bielsa. On va basculer sur un club français qui, je ne vais pas vous mentir, me perd depuis ces dernières années. Je suis perdu avec ce club. C'est le club de l'AS Monaco. Entre eux, ils sont pleins d'argent, j'ai plus d'argent, ils ont un effectif pour gagner la Ligue des Champions, ils les vendent tous. Messieurs, moi j'y comprends rien. Et là encore une fois, en l'espace de 10 minutes, ils ont réussi à dire que Moreno était dehors et à dire que Kovac est arrivé. Moi, c'est un club, j'y comprends plus rien.
Eh ben, écoute, Melvin, je vais rebondir tout de suite là-dessus. L'AS Monaco, c'est un peu mon coup de gueule. Ça incarne, c'est simple, l'AS Monaco aujourd'hui incarne tout ce que je déteste dans le football. Aujourd'hui, l'AS Monaco me fait gerber, c'est simple. Le seul moment où j'ai...
Ah bah dis donc.
Non mais c'est simple, ah bah, c'est... À un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
C'est une moule à varier. Hein.
Ouais, non, ouais, pire que... Et puis pour un breton, je peux te dire qu'en termes de moule, je m'y connais.
Bon. Ouais, elle est bonne.
Non mais c'est vrai, aujourd'hui franchement l'AS Monaco c'est une place boursière, c'est du trading, il n'y a rien en face quoi, putain. Ah, l'AS Monaco, la seule fois où je les ai aimés sincèrement, c'est au moment où ils faisaient vraiment concurrence à, et qu'ils éclipsaient entre guillemets un peu le Paris Saint-Germain, parce que c'était frais, ça faisait du bien d'avoir un moment un club capable de s'élever à ce niveau-là. Mais pour le reste, putain, quand tu regardes l'AS Monaco jouer en Ligue des Champions, mais quelle purge! Oh, mais moi, j'aime avoir des stades comme Lens, d'avoir des stades comme le FC Nantes avec la Brigade Noire qui descend sur un but, d'avoir des chaudrons verts, d'avoir vraiment un clapping dans le Parc OL. Purée, c'est quoi ce stade? C'est quoi ce stade? Non, mais sérieux, le prince, soit il vient avec sa famille. Non, mais soit le prince, il vient avec sa famille, auquel cas il y a un peu de bruit dans le stade. Non mais c'est un truc de dingue. Et moi, ça m'insupporte. Aujourd'hui, ça m'insupporte. C'est un effectif pléthorique. Il y a des joueurs, tu sais même plus quoi en faire. La moyenne d'âge, elle est de 17 ans. D'ailleurs, à chaque entraînement, c'est les parents qui déposent les enfants. Non, mais c'est une catastrophe. Non, mais ça y est, clair, les gars. C'est une catastrophe. Et moi, ce qui me rend encore plus dingue, c'est quand t'as des saisons comme ça où t'as l'AS Monaco qui fait que figurer, qui est là en Ligue des Champions, qui reçoit des clubs comme l'Atlético, qui se fait rouler dessus avec Thierry Henry, qui met que la réserve sur le terrain. C'est un club qui respecte pas le football. C'est un club qui respecte pas la Ligue des Champions. Et moi, aujourd'hui, d'avoir des clubs qui ont peut-être un niveau un peu plus faible au niveau de l'effectif, comme peut l'être Saint-Etienne. Mais tu sais que ces clubs-là, quand ils vont en Ligue des Champions, ils se tapent le cul par terre, les mecs. Ils mangent
pas
la pelouse.
Hein.
Ils mangent
pas
la pelouse.
Saint-Etienne.
Non mais je suis pas d'accord.
T'as pas pris le bon exemple. Mais regarde les matchs de Saint-Etienne en Europa sur les 5 dernières années, c'est l'hécatombe là-bas.
Non mais les mecs, en attendant, il y a du supporter. Et puis si les 11 artisans qui sont sur le terrain, ils sont pas au niveau, tu sais que dans les gradins, ça va faire le taf quoi. Putain, c'est ça qu'on veut quand on entend la musique de la Ligue des Champions retentir. Et moi franchement, j'ai qu'une seule espérance, c'est qu'avec les droits TV et avec tous les investisseurs étrangers qui achètent des clubs en France, que l'AS Monaco soit bientôt un club du ventre mou, mais qu'on arrête de les voir jouer les places européennes. Ça me rend malade.
C'est
sérieux.
Déjà un club du ventre mou, ils ont fini 9e.
Oui, cette année, mais regarde les années dernières, Kevin, tu le sais très bien.
Les gars, attendez, Monaco, ça reste quand même le dernier finaliste français en Ligue des Champions.
Ouais, super.
C'est quand même un grand club qui a connu de grands joueurs, qui a sorti de grands joueurs, qui a une fortune incroyable.
Non, mais...
Ils ont une fortune incroyable.
Ouais, mais moi, je ne sais pas pourquoi Pierre s'énerve. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec lui, mais moi, je ne suis pas surpris de ce qui se passe à Monaco, parce que ce qui se passe à Monaco,
c'est une purge.
Mais c'est comme ça depuis la nuit des temps à Monaco. Les gens ne viennent pas à Monaco pour le club, parce que c'est un club qui ne transpire rien, mais à part l'exonération fiscale, mais c'est les gens ne vont pas à Monaco parce que Monaco c'est un super club, parce que c'est la Côte d'Azur, c'est joli, et parce que il y a moyen de bien gagner sa vie là-bas. Mais c'est un club, c'est pour ça que c'est un club qui ne bâtit rien de stable depuis la nuit des temps, parce que les gens ne vont pas à Monaco pour la bonne raison, et les gens n'ont pas acheté Monaco les Russes n'ont pas acheté Monaco pour la bonne raison. Du coup, c'est n'importe quoi. Donc moi, j'ai presque rien à dire sur Monaco, parce que moi, il n'y a rien qui me surprend. Aussi bien dans 2 ans, ils sont capables de refaire un beau parcours et ils vont revendre tout le monde. Alors tout le monde va se barrer, parce qu'à Monaco, c'est comme ça que ça marche, aussi bien au niveau des entraîneurs qu'au niveau des joueurs. Dès qu'il y a une opportunité, même infime, de pouvoir se barrer dans un club un peu mieux huppé, les gens se barrent. Et c'est comme ça, même avant les Russes et leur politique de dire on va essayer de faire des plus-values sur les joueurs. En 2004, c'est pareil. En 2004, ils se barrent tous. Julie se barre, Roten se barre, Evra se barre. Je vais pas faire la liste, mais il y en a un paquet qui se barre derrière. Skilacci va se barrer, Rodriguez se barre, Jivet se barre. Ils se barrent tous parce qu'ils s'en foutent du club. Et c'est comme ça maintenant aussi.
Kevin, t'as vu l'effectif quand même ? Wissam Beyeder, Cesc Fabregas, Golovin, Slimani, Jelson Martin, Tsemwe Bakayoko, Benjamin Lecomte, ils ont quand même des joueurs.
Ouais, ouais, ils ont aussi Kevin Appin, Jean-Eudes Aoulou, Enzo Milo, Arthur Zagré, Jonathan Panzo, je sais pas ce qui c'est.
je suis d'accord avec toi, Melvin. Le problème, c'est qu'on en revient à ce qu'on disait, c'est que les mecs, ils marquent un but, ils prennent leur téléphone, ils regardent combien ça a généré d'abonnements sur Twitter, quoi. Mais ils sont pas là en train de prendre les cuissons, de l'embrasser. Les mecs, ils ont pas envie, quoi. Ils ont pas envie. Ils sont là pour se regarder jouer. Tu sais, t'as l'impression de voir ces tournois là pour les moins de 12 ans, pour les moins de 14 ans, où ils savent qu'il y a un recruteur dans les gradins et que les mecs ils jouent pour eux. Mais en fait, quand tu regardes l'AS Monaco, dans une autre proportion aujourd'hui, c'est ça pour moi. C'est ça.
Après, on peut en vouloir aux joueurs, mais encore une fois, si tu veux insuffler un minimum de choses à ton club, ça doit partir d'en haut, ça doit partir de quelqu'un, un directeur sportif, un président, qui ont une volonté forte de avec un vrai projet à Monaco dans lequel les supporters vont pouvoir s'identifier pour qu'il y ait une ferveur durable dans ce club. Et quant à la ferveur, quant à un bon entraîneur, quant à un directeur sportif et que ça respire football à Monaco, les joueurs ils vont venir à Monaco pour ça et ils resteront pour ça. Et c'est ce jour-là où tu auras quelque chose de durable à Monaco. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à tous les niveaux, même au niveau des supporters, tu vois bien, ils remplissent pratiquement moins de monde dans le stade qu'à Grenoble, quoi. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi.
C'est ça. Alors justement, messieurs, parce que je rebondis sur ce que tu dis. Je ne sais pas si vous avez l'info. Moi, je l'ai eu là ce matin. Ils auraient pris Kovac par défaut parce que Mauricio Pochettino aurait refusé.
Ouais, mais oui. En même temps, pourquoi il irait Pochettino ?
Non,
mais...
parce que pour ton info, Kevin, Mauricio Pochettino serait le remplaçant de Mauricio Sarri.
Ouais, bon, ça après c'est des rumeurs, peut-être. J'en ai entendu parler, effectivement, ça fera peut-être l'objet d'un prochain débat. Mais en tout cas, pour moi, Moreno, de toute façon, c'était pas forcément un super casting. Non. Parce que qui est Moreno ? On savait même pas qui c'était avant qu'il soit nommé à Monaco. Là, ils font venir Kovac. Très bien, même si c'est un choix par défaut, c'est quand même un joueur qui a un peu plus de bouteille, même s'il a fait exploser le vestiaire du Bayern de Munich il n'y a pas un an de ça. Et que quand on voit derrière ce que fait l'entraîneur du Bayern de Munich depuis que Kovac est parti, avec le même effectif, ça a fait un peu un effet Zidane d'ailleurs. La preuve que ce Kovac, même s'il est sur le papier un peu plus attrayant, ça ne m'inspire pas non plus un grand optimisme pour ce club.
Ouais, surtout qu'en plus,
ça a été un grand joueur, hein, Kovac. Hein.
Oui, un grand joueur, mais un grand joueur ne veut pas forcément dire grand entraîneur derrière.
Oui, et puis enfin, sur le papier, je veux dire, les derniers entraîneurs qui se sont succédés, Jardim, c'était loin d'être nul. Quand tu regardes ce qu'il avait fait avec son effectif à se hisser parmi les meilleures équipes européennes, bon, je veux dire, c'est facile hein, après aussi un moment de leur tirer dessus. Je pense que Monaco a eu des bons entraîneurs, et là où je rejoins Kevin, parce que bon, je suis quand même aussi un peu d'accord avec lui, c'est de dire que le problème, il vient pas que de l'entraîneur. Henri, si tu veux par là, tu disais putain, il faut mettre des mecs qui transpirent le football, des mecs qui ont la rage au ventre. Mais Henri, pour ça, c'était le meilleur casting. Sauf que derrière, t'as pas les joueurs qui vont avec, t'as pas les joueurs qui vont le suivre, parce que les mecs, ils sont là, ils sont en draft et ils en ont rien à foutre.
Ah,
en
fait, je suis pas d'accord avec toi, Henri, c'était pas le bon casting.
Non, Henri, c'était pas forcément le bon casting.
Non, j'ai pas dit que c'était le bon casting.
Trop tôt, ouais, trop tôt.
J'ai pas dit que c'était le bon casting. J'ai dit que c'était le bon casting par rapport à ce que tu étais en train, toi, de dire il faut des mecs qui transpirent le football, qui ont des tripes et qui ont du courage.
Mais il faut pour moi un entraîneur là-bas, pareil. Il faut peut-être pas un entraîneur. Il faut un entraîneur avec du palmarès, avec une aura, avec un charisme.
Un Deschamps allait très bien.
Oui, un Deschamps, ça allait très bien.
Laurent Blanc.
Après, un Laurent Blanc, pourquoi pas. Voilà. Mais il faut quelque chose, il faut un vrai... Avant de mettre un entraîneur, il faut un vrai projet sportif. Et ça, c'est le DS, le directeur sportif, qui doit l'insuffler. Autant Vasiliev, on a l'impression qu'il aimait quand même un petit peu le foot, autant depuis qu'il n'est plus là, Vasiliev, moi, je ne saurais même pas te donner le nom du directeur sportif. Là. C'est...
Après, je suis d'accord avec toi, il y a aussi peut-être le directeur sportif, c'est Paul Mitchell.
Ouais,
vous vous rappelez Mitchell ?
Non.
Qui était à Marseille.
Ah oui, effectivement.
Ah d'accord.
Voilà. Donc, je pense que c'était plus un casting. Voilà, c'est plus pour faire. Non, mais je pense que c'est plus pour faire un casting sur les yachts à Monaco.
Peut-être.
Non, voilà. C'est quelque chose qui est assez moyen. Je suis d'accord, ça manque d'ambition énormément.
Mais c'est. ça coule dans les veines du club, hein, ce manque d'ambition, ce manque de stabilité et d'aura.
Et en plus, on peut faire du training sur des joueurs de football et tout en essayant de garder une certaine cohérence sportive. Lille, pour moi, le fait très bien.
Lyon le fait très bien aussi.
Pépé, tu vends Pépé, oui, parce que tu as des offres qui arrivent que tu peux pas refuser. Oui. Mais par contre, il y a des joueurs que tu gardes. Tu essaies de garder quand même ta charnière centrale. Tu essaies de garder 2-3 joueurs comme ça qui vont te faire le lien avec la saison d'après. Et puis, tu essaies de remplacer sur des profils plus ou moins identiques en essayant de garder une certaine cohérence dans l'effectif. Monaco, tu as l'impression qu'ils ont des offres sur le 11 type, ils vendent le 11 type, ils s'en fichent, ils plient, vrai, ils repartent à zéro. Mmh. Ils essaient même pas de garder un ou deux joueurs pour dire on va garder quand même 2-3 piliers pour pouvoir s'appuyer dessus la saison prochaine. Quoi.
C'est vrai.
On est d'accord. Bon, messieurs, on va clore le sujet parce que, comme l'a dit Kevin, il a rien à dire de toute manière dessus.
Non, mais j'ai dit quand même pas mal de choses, mais c'est vrai que bon, il n'y a pas.
Mais c'est vrai. Et on va, là, pour moi, on passe du coq à l'âne, comme j'ai dit tout à l'heure. On passe avec le club de Bordeaux.
Ouais.
Avec le nouvel entraîneur qui vient d'être nommé, qui est Jean-Louis Gasset. C'est un personnage que j'adore, tant pour l'homme que pour l'entraîneur qu'il a été à Saint-Etienne ou même adjoint de Laurent Blanc. Messieurs, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est une nouvelle ère pour les Girondins qui commence ?
La nouvelle ère, elle sera là quand ça sera un peu moins le bazar quand même en coulisses dans ce club. Moi, je reviens à ce que je viens de dire il y a peut-être 2 minutes. Choisir un entraîneur de qualité, c'est bien, mais avant, il faut que ta structure soit carrée pour que ça fonctionne, parce que tu peux mettre n'importe qui, ça fonctionnera pas. Paulo Sousa, c'était un bon entraîneur, il avait je pense dans l'idée de faire des bonnes choses à Bordeaux, tout comme Gustavo Poyet avant lui, mais ça n'a pas fonctionné parce que c'est le bazar dans ce club là mais moi je sais, ils se font reprendre, et finalement il y a d'autres encore repreneurs, ils veulent revendre, c'est le bazar total dans ce club. C'est vraiment pas une bonne pub pour notre Ligue 1, ça, parce que c'est des clubs comme ça qui sont perdus à tous les niveaux hiérarchiques du club. Alors pourtant, oui, mais... à la différence de Monaco, c'est qu'à Bordeaux, il y a quand même un minimum d'histoire, de ferveur autour des... Il y a quand même des supporters qui sont fidèles au club. Le club,
il y a un beau stade.
Il y a des supporters qui remplissent le stade aussi. C'est important. Mais derrière, c'est n'importe quoi. Alors.
Et puis qui se battent aujourd'hui, hein, qui descendent dans la rue, qui essayent de faire en sorte de sauver le club. À Monaco, que tu sois en Ligue 2, que tu sois en Ligue 1, t'entendras pas grand-chose, quoi. À Bordeaux, tu sens que les mecs, ça les prend aux tripes, quoi. Ils en sont malades, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Oui, mais justement, est-ce que c'est pas un gage de stabilité, de nouvelle ère avec la signature de Gasset ? C'est pas quelqu'un qui va au pif, il réfléchit, il aurait pas signé n'importe où.
Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est un environnement qu'il connaît un petit peu. Peut-être qu'on lui a dit des choses et que ça lui a donné envie de venir aussi. Et des choses qu'on n'est peut-être pas encore totalement au fait. Pour moi, je vais faire sourire peut-être quelques-uns quand je vais dire ça. Mais pour moi, il reprend un poste d'entraîneur qu'il avait quitté à l'époque où il y a Laurent Blanc. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Laurent Blanc, c'est pas un vrai entraîneur. Parce que c'est pas celui qui prépare les séances. C'est pas celui qui tactiquement a beaucoup de suite dans les idées. C'est un entraîneur, un manager, on va dire, un peu à l'anglaise, qui supervise un petit peu de haut tout son staff et tous les joueurs et qui fait des causeries. Mais pour moi, le vrai entraîneur de la doublette Blanc-Gasset, ça a toujours été Gasset. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Blanc a du mal à retrouver un boulot depuis qu'il est parti du PSG. C'est parce qu'il n'a plus son entraîneur adjoint. Donc pour moi, Gasset, c'est un bon choix sur le papier. Après, il faut quelque chose derrière, il faut un projet en béton, il faut faire venir des joueurs, il faut un président, un directeur sportif ambitieux pour essayer de faire en sorte que Bordeaux arrête de végéter à la 14e place, à la 10e place, à la 8e place. Enfin, je veux dire, c'est un club qui doit jouer les 6 premières places, Bordeaux.
Alors, on est bien d'accord.
Voilà.
Ça, on est bien d'accord sur le sujet. Maintenant, est-ce que ça va pas être le problème de tous les clubs français, où il y a des investisseurs qui arrivent? On voit Marseille en ce moment qui est chahuté, on a vu Lyon avec l'arrivée des Chinois, Paris. Moi, je pense que tous les grands clubs français vont devoir être confrontés à cette instabilité momentanée, on va dire.
Pourquoi?
Parce qu'il va y avoir des investisseurs qui vont étudier, ils vont dire oui, ils vont dire non, ça va passer de main en main. Je pense que ça va être compliqué sur les prochaines années.
C'est sûr que la venue des investisseurs étrangers n'est pas une bonne chose. Moi, en tout cas, je l'ai jamais vu comme une bonne chose.
Je suis comme toi, ouais.
Peu importe le club vers lequel ils vont se tourner, peu importe les ambitions, peu importe ce qu'ils vont dire. Pour moi, c'est pas une bonne chose parce que c'est pas le football que j'aime. Moi, le football que j'aime, c'est quelque chose qui, c'est des clubs qui se construisent avec autre chose que de l'argent et autre chose que des repreneurs. Après, malheureusement, je me suis fait une raison. Le football maintenant, ça a évolué. C'est comme ça. C'est pas comme ça qu'en France. C'est comme ça aussi dans d'autres clubs. Hein. On parle de l'Italie. Le Milan s'est fait racheter. L'Inter s'est fait racheter. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, je sais pas quoi dire. Pour moi, j'ai jamais cru au projet marseillais. Le projet lillois est mieux parce qu'il est mieux construit.
Autour d'un centre d'entraînement.
Voilà.
Ils n'ont pas le même effectif. Vous avez vu l'effectif bordelais.
Oui.
Benoît Costil et Laurent Koscielny.
Je suis pas aussi extrême quant à Bordeaux.
De Préville, Briand.
Pablo est un bon défenseur. Il est un peu excentrique, il prend facilement des cartons, mais Pablo, c'est quand même une valeur sûre. Ils ont fait un très bon recrutement à la personne de Yacine Adil, pour moi, qui a un vrai potentiel. Je ne comprends pas d'ailleurs que le Paris Saint-Germain s'en soit séparé, mais ça peut vraiment être une bonne pioche pour les prochaines années. S'ils avaient la clairvoyance et la lucidité de faire revenir Malcolm, je crois qu'il maintenant est au Zénith, ce serait bien, parce que quand tu vois aujourd'hui, ils pourraient le faire revenir peut-être pour deux fois moins que ce qu'ils l'ont laissé partir. Sabali, j'aime beaucoup aussi l'ailier droit. Tu vois, pour moi, le Bordeaux, c'est un club intelligent sur certains recrutements qui font de bonnes affaires. Sabali, c'en était réellement une. Yacine Adil, c'en est une. Faire revenir Koscielny, c'était pas facile parce que il avait des propositions en Angleterre. Pour moi, derrière, il y a une logique sportive qui me déplaît pas. Après, il manque un chef d'orchestre. Est-ce que Gasset peut être ce chef d'orchestre? J'en sais rien. Même des présidents comme Nasser sont capables, quand ils ont les bonnes personnes au poste en dessous d'eux, de se muer, de laisser la place aux personnes, comme on le voit avec Leonardo, comme on le voit avec Tuchel. Est-ce que Bordeaux a la clairvoyance et la lucidité de laisser Gasset faire ce qu'il faut faire? Sincèrement, avec l'effectif qu'a aujourd'hui Bordeaux, je pense qu'ils peuvent faire une belle saison sans avoir à révolutionner l'effectif.
Il faut racheter des gonzes parce que devant
t'es obligé. Devant, tu pourras pas faire quelque chose.
C'est l'effectif. Pour ça que je parlais de Malcolm et je pense qu'il faut éventuellement racheter au moins un attaquant, un numéro 9.
Il faut virer les vieux. Hein. Enfin franchement, Jimmy Briand, Koscielny et tout.
Ça peut peut-être faire du bien au vestiaire. Je suis pas d'accord avec toi.
Ouais, moi je suis pas d'accord non plus sur Koscielny.
Pour moi, il manque un vrai numéro 9 dans ce club-là parce que Depréville a jamais passé la barque des 10 buts, je crois, en Ligue 1. Je suis en train de regarder là, mais ou alors c'est pas ça lui est pas arrivé depuis très longtemps. Si Lille, la première année, 14 buts, mais ça lui est arrivé qu'une fois. Puis il a 29 ans déjà. Moi, je pense qu'il faut.
J'aurais aimé un Giroud, moi.
Il y a
Bordeaux,
pas assez. Ouais,
finesse,
bien sûr.
Un Giroud.
Il y a pas assez de milieu de terrain.
Pas encore.
Moi, j'aurais aimé avoir à Bordeaux l'année prochaine, j'aurais aimé avoir Bordeaux, un Giroud et un Laurent Blanc. J'aurais aimé, sincèrement, vraiment.
Ouais.
Mais pour moi. Ouais, mais dans un ou deux ans, pas tout de suite.
Ouais,
Giroud, il plante encore à Chelsea, il a planté encore hier.
Ouais, Giroud, de toute façon. Bref. Mais.
Tu fais revenir Gigi, Gignac des Tigres.
Non, mais Giroud, il faut pas qu'il vienne à Bordeaux à 36 piges, il a déjà 33 ans. Il faut qu'il vienne.
Pour moi, Giroud, surtout avec ce qu'il est en train de faire actuellement, à un an de l'Euro. Franchement, j'espère qu'il va avoir la lucidité de partir. Après, je pense pas que là, dans l'état actuel des choses, vu le néant qu'il y a autour de Giroud, qu'il le laisse partir. Mais franchement,
ils viennent de prendre Werner. Ils ont le jeune Abraham.
Ouais,
l'année prochaine, Giroud ne joue pas. Giroud joue par défaut aujourd'hui parce qu'il est sur une bonne forme, mais aussi parce que Chelsea n'a pas pu recruter la saison dernière. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu le vendre d'ailleurs à la trêve.
Sincèrement, tu mets un Giroud, Malcolm, Yacine Adil devant, ça peut commencer vraiment à avoir de la gueule et fière allure.
Mais justement, mais faut les acheter ces joueurs-là.
Ouais.
Surtout que Giroud, c'est pas si cher. Hein. L'âge qu'il a aujourd'hui, c'est pas si cher.
Non, mais
que ça,
Giroud,
quoi.
À moins de 10 millions d'euros, tu l'achètes aujourd'hui.
Ah bah oui, ouais, voilà. Et quand tu vois aujourd'hui les transactions qui se font à droite et à gauche, c'est largement accessible. Quoi.
Et le salaire, vous faites comment? Il a un salaire d'Américain, Chelsea.
Ouais, bah après, il fait des efforts aussi. Enfin, je sais pas.
Mais je pense que c'est un joueur connaissant un petit peu qui fera des efforts.
Mmh.
Mais il a connu le championnat de France, il a. Moi, je pense qu'il fera.
Mais il faut des gens devant, mais il faut aussi un milieu de terrain. Parce que, à part Yacine Adli, moi, je regarde la liste là. Thomas Bazic, Albert Lautin, Otavio, Ruben Pardo, Mehdi Zerkan. C'est qui? Moi, je ne sais pas. Il faut des joueurs au milieu de terrain. Là. En plus, ils ont 6. Alors, ils ont 12 000 défenseurs, 12 000 attaquants. Mais au milieu de terrain, ils sont 6. Et il y en a qu'un qui a un niveau à peu près pour jouer l'autre tableau.
T'inquiète pas. Il paraît que Gasset arrive avec dans ses bagages Stéphane Ruffier.
Ah, oui. Super, super.
Alors, et le vous, problème, vous en c'est pensez quoi de
ils
ça,
ont déjà un bon gardien qui s'appelle Benoît Costil, mais ils vont acheter Gassé. Alors ça, c'est... ils vont acheter Ruffier. Ouais, alors,
c'est simple. Si Ruffier vient, c'est que Costil part. Gassé fera pas cette connerie.
Ouais, c'est vrai.
Non mais Ruffier, enfin je, bon, c'est encore un autre débat, mais c'est un bon gardien. Je trouve ça c'est triste la manière dont ça se termine.
Il fera pas les Molières, on est d'accord.
Non, mais c'est très triste parce que quand tu vois, il a quasiment fait une décennie à Saint-Étienne, il a été longtemps capitaine. Oui, on peut me dire ce qu'on veut, il accepte pas le fait d'être mis sur le banc. Mais bon, c'est triste quand même la manière dont ça se termine. Pour moi, là, c'est une faute de com du club et du joueur, de l'agent.
Mais avec des joueurs comme ça, ça ne peut pas bien se terminer parce que c'est des joueurs, justement, comme tu l'as dit, Pierre, qui n'acceptent jamais d'être remis en question, d'être critiqués. Donc, ça peut jamais bien se finir. Et c'était obligé que ça se termine comme ça.
Je sais pas si lui, Rabiot et lui doivent être frères, je pense. À quelque chose près. Bon, messieurs, on va clore le sujet.
On va
passer à un moment que moi j'adore. Vous voyez, là je suis dans le sud, je suis dans ma voiture. Je suis prêt à faire le tour du Bellambra pour gagner ce quiz, messieurs.
Ouais, et ben ouais, parce qu'en plus moi j'ai fait un super quiz. Donc j'ai fait un peu le quiz un peu comme Pierre. J'ai mis un petit peu différentes questions. Il y a du qui a dit, il y a en quelle année, il y a donnez-moi le nombre,
C'est bon.
Et il y a un qui suis-je à la fin. Voilà, j'espère que vous allez trouver tout ça. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs?
Eh ben écoute, ouais, je suis prêt.
On est prêt.
Je suis content parce qu'il va y avoir enfin un autre gagnant que moi dans cette émission, parce que un peu de concurrence.
Arrête l'émission,
Melvin, tu feras gaffe, il y a des interférences. Ferme ton ordinateur portable, s'il te plaît, avec le moteur de recherche Google, ça fait planter l'émission.
Bon allez, on y va. On commence par un qui a dit. Le football est simple, mais il est difficile de jouer simple.
Platini?
Non.
Marcelo Bielsa?
Non. C'est un ancien joueur qui a été meilleur joueur du monde, Ballon d'Or, entraîneur aussi très réputé.
Alors.
Pelé.
Non.
Ancien Ballon d'Or.
Ouais.
Et entraîneur.
Maradona.
Non.
Entraîneur, il est sur quel il a joué dans le championnat. Il est européen. Il est.
Oui, européen. Ouais. Et je vous donne un dernier indice, il n'est plus de ce monde.
Johan Cruyff.
Oui.
Quel joueur, Johan Cruyff.
Quel entraîneur aussi.
Ah ouais.
Ça, c'est sûr. Allez, passe à la deuxième question. Je veux que vous me donnez un nombre cette fois-ci. Quel est le nombre exact de passes décisives que Messi a délivré cette saison en Liga?
21.
Oui.
T'as fait une pompe, t'as fait une dans ta main, on
en entend parler. Il a battu un record justement. Messi d'ailleurs.
Il a battu le record de Xavi.
Voilà.
De Xavi.
Et ça m'entraîne à la troisième question qui est en quelle année ce record avait-il été établi?
En 2004.
En 85.
Non. C'est Xavi.
Ah. Non mais lui il est sur la logique des gens morts en fait. C'est pour ça qu'il a bien répondu à la dernière. En 2007.
Non.
2009.
Oui.
Oh,
2009, Pierre.
Pas
l'avantage.
Oh purée. Et en plus quand les auditeurs ils verront sur le Facebook que en plus il est venu Melvin avec un maillot du Barça. Non mais attends Melvin, arrête de regarder les filles passer là.
C'est vrai, je suis désolé.
C'est l'air marin qui te monte à la tête.
Ah, c'est les moules.
Allez, quatrième question. Et là, elle est difficile, celle-là. Quel est le plus grand stade du monde? Celui qui a la plus grande capacité.
Le Maracana au Brésil.
C'est celui que j'allais dire. Oh purée, alors là.
Comment ça, c'est pas le Maracana?
Non.
Attends, tu parles bien d'un stade de foot, hein?
Oui. Un stade qui peut accueillir du foot. Après, il n'était pas prévu que pour ça, mais il peut accueillir du foot.
Je crois que c'est.
Ah, bah, le plus grand stade du monde, sinon, c'est à. C'est au.
C'est aux États-Unis.
C'est aux États-Unis.
Non. Ah bon?
Non.
C'est en Chine alors?
150 000 places.
Bah, si, c'est en Chine.
C'est en Inde ou en Chine?
Ouais, c'est en Chine.
C'est en Chine, effectivement.
Pyongyang, France.
Oui, Pyongyang. Bravo.
Arrêtez. C'est où à Pyongyang?
À Pyongyang, ouais.
Bam, 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 bam.
Putain, ouais, il a réussi. Je sais pas s'il a fait exprès, mais il a réussi. Oh, le
sang. C'est pas possible.
Magnifique.
Bon, ça fait 3-1 pour Pierre. On sait qu'il a gagné le quiz, mais on va quand même faire la cinquième question.
Pyongyang, c'est en Corée du Nord, quand même.
Non mais c'est le seul que je connais, alors je l'ai sorti. Oh purée, c'est le seul que je connais, donc je l'ai sorti.
Ah oui, c'est vrai.
Je vais porter réclamation.
Bon, tu te plaindras à la direction.
Ouais. Ça.
Oh putain, c'était magnifique. Bon allez, on va faire comme la dernière question. Parce qu'elle était quand même pas mal, et puis tu peux sauver l'honneur, Melvin.
Vas-y.
Qui suis-je? Je viens tout juste de prendre ma retraite. Je fais partie de ces joueurs qui ont su évoluer à deux postes différents pendant toute leur carrière. Non, même si à la fin de ma carrière, j'ai évolué au plus souvent au poste de défenseur central. J'ai toujours joué en France et j'ai joué plus de 600 matchs en professionnel. J'ai la réputation d'avoir eu un physique de plus en plus imposant au fil des années.
Nicolas Palois ?
Non, même si ça m'a valu quelques critiques sur mon poids. Je finis ma carrière sur une note plutôt négative car je n'ai pas pu empêcher la descente de mon club en deuxième division. Mon mentor a été
Claude. Bonne mère.
Oui, bonne mère. Bravo Melvin, tu sauves l'honneur avec ce deuxième point, ce deuxième but noté.
Ils sont pas l'honneur, moi je suis un vrai connaisseur et l'autre c'est au pif.
Ah bah c'est sûr. Attends, mais qui est laid quoi. Non mais oh, pour un Barcelonais, je me ferais tout petit. Hein. Arrête d'être. Hey, tu vois, il est bien à l'image de son club. Hein.
J'étais ridicule.
Quand tu regardes hier, les mecs ils gagnent 5-0, ils finissent deuxième, ils ont rien gagné. Là,
moi je pense surtout, Melvin, que tu es très spécialiste des joueurs retraités parce que tu as su me trouver Johan Cruyff, bonne mère. T'avais fait la dernière fois Christophe Coquart, on s'en souvient tous.
Les gars, j'ai 36 ans.
Mais ouais, c'est ça. T'as 63 ans, mon gars.
Mais vous vous rendez pas compte.
Pour aller au Cap d'Ac, t'as 63 ans. Hein.
Donc effectivement.
Mais attends, je vais vous dire une anecdote pour finir. Ouais. J'ai quand même reçu, il y a un mois, ma première licence vétéran. Est-ce que vous imaginez comme je suis dans le mal?
Ça explique cela en fait.
c'est très dur.
Ceci explique cela. Je finis quand même mon petit laïus sur Bodmer parce que mon mentor a été Claude Puel qui m'a positionné milieu offensif et j'ai connu mes meilleures années à Lille avant de connaître le déclin après un passage mi-figue mi-raisin à l'OL où j'ai retrouvé Puel mais jamais mon niveau. Voilà.
Mais c'est qu'il y connaît rien. Si son mentor c'est Puel, il connaît un peu.
Non mais c'est vrai, c'était son mentor Puel.
Melvin, te défoule pas sur le premier venu, t'inquiète pas, tu feras mieux la prochaine fois.
C'est vrai,
voilà. Bon, en tout cas, c'était une belle émission encore, mes amis. Puis on a respecté le délai, regardez, 56 minutes et 40 secondes, là, c'est beau, hein.
Bah d'ailleurs, si on peut en profiter pour faire un petit aparté par rapport à nos auditeurs, si vous pouvez nous suggérer éventuellement des choses sur Facebook, si vous avez envie, vous aussi, de prendre part à certains débats, de nous donner des sujets. Voilà, n'hésitez pas à venir sur le Facebook. L'émission, donc, elle a été créée là, il y a quelques semaines, donc c'est tout nouveau. Mais petit à petit, voilà, ça évolue. Et en fait, le but, c'est qu'à terme, vraiment, on puisse échanger davantage avec vous, pouvoir toujours être plus attentif à vos attentions, à vos suggestions. Donc, s'il vous plaît, continuez à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux, de manière à vraiment que ça puisse devenir de plus en plus interactif, parce que c'est le but. Le foot, c'est une passion, et plus on est fou, plus on rit, les gars.
Ouais, il était bon, Pierre, aujourd'hui. Oh là là, il était bon.
Après, si vous avez envie de parler avec des gens qui connaissent rien au football, allez pas sur RKS, vous tapez Pierre Maillet-Jégou. Et puis au moins, vous pouvez échanger avec.
Et puis si vous voulez parler avec des gens qui sont morts, vous pouvez contacter Melvin Balma.
Non, mais je te jure,
on pouvait pas faire plus belle clôture d'émission. Mais
tout à fait. Je te laisse conclure du coup, Melvin, parce que c'est à toi que revient cet immense privilège.
Mais bien sûr. Et ben écoutez, on se retrouve lundi prochain, 19h, sur le 97.00 sur RKL.
Et on sera tous présents en studio.
On sera tous présents en studio. J'ai vraiment hâte.
La censure va revenir, attention.
Ouais, je pense qu'il peut tout se passer. Messieurs, encore merci à vous.
Les merci, auditeurs, merci.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine et restez sur RKS.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Ciao.
Bye bye.
Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.